Marc Renaud, bonjour.
Bonjour et merci beaucoup de nous avoir invités. C'est une belle façon de souligner la Semaine mondiale du glaucome que d'être en votre compagnie ainsi qu'avec votre auditoire. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous. Vous savez, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. J'imagine que l'un des enjeux majeurs concernant le glaucome, c'est le fait que bien des personnes qui vivent avec la maladie ne sont pas au courant parce qu'il n'y a pas ou peu de symptômes. Donc, l'enjeu est dans le dépistage, Marc Renaud.
C'est comme vous avez dit dans votre introduction, qui est très bien faite d'ailleurs, c'est une maladie qui ne présente pas généralement de symptômes, mais qui peut mener à la cécité. C'est une maladie chronique et pour l'instant incurable, mais contrôlable en autant qu'on la détecte et c'est pourquoi qu'il faut la faire connaître. Et je pense qu'une émission comme la vôtre, c'est une vitrine idéale pour faire connaître cette maladie.
Et quels sont les examens pour diagnostiquer le glaucome si, justement, on ne peut pas l'identifier par des symptômes?
Il y a des tests de champ visuel périphérique, la vérification de la pression intraoculaire, donc la pression à l'intérieur des yeux. Il faudra avoir un examen du fond de l'œil également et l'examen de ce qu'on appelle les angles iridocornéens. Et tous ces examens-là peuvent être faits par soit un médecin spécialiste, un ophtalmologue ou encore des optométristes qui font un très bon travail de dépistage maintenant.
Est-ce que certains facteurs de risque, Marc, peuvent nous inciter à être plus vigilants par rapport au glaucome?
Les différents facteurs de risque, il y en a quand même plusieurs. Tout d'abord, il faut quand même avoir une bonne santé, une bonne hygiène de santé. Mais à la base, les facteurs de risque qu'on peut retrouver, c'est par exemple notamment les pressions intraoculaires qui sont élevées. Il y a des antécédents familiaux qui rentrent en ligne de compte. Mm-hmm. L'usage de certains médicaments, le diabète, l'hypertension, d'autres problèmes vasculaires sont autant de facteurs de risque. Il y a aussi la question de l'âge, comme par exemple, ouais. C'est détecté vers 45 ans, c'est 2,5% de la population, mais vers l'âge de 80, on peut aller jusqu'à 12% de gens qui ont une possibilité d'avoir un glaucome. Il y a l'ethnicité, particulièrement la descendance africaine, qui peut rentrer en compte également.
Ah oui.
Et même l'hypotension, qui cause des problèmes de perfusion, peut éventuellement causer un affaiblissement de la capacité de l'œil de se défendre contre le glaucome.
Vous parlez de certains médicaments qui peuvent être un facteur de risque. Quel type de médicaments?
Certains sulfamides, il y a certains, pour certains types de glaucome, il y a aussi certains médicaments qu'on retrouve en vente libre. Qui ne sont pas nécessairement indiqués. D'ailleurs, vous allez souvent retrouver ça, ne prenez pas ce médicament si vous faites du glaucome, des trucs comme ça.
Mm-hmm.
Et aussi les médicaments à base de cortisone.
Si l'on veut, on a déjà parlé ensemble, Marc, de glaucome, mais si on veut peut-être un petit peu mettre la table pour des gens qui n'auraient aucune idée de ce qui est cette maladie de l'œil-là, c'est lié à la pression, hein, n'est-ce pas?
À vrai dire, la pression intraoculaire, c'est la seule composante sur laquelle on peut vraiment agir pour contrôler la maladie. Mais pour l'instant, surtout dans les cas de ce qu'on appelle les glaucomes primaires, il n'y a aucune source identifiable de ces mécanismes-là. Alors, ils ne sont pas tous connus.
Okay.
C'est là que ça devient un problème. Dans les cas des glaucomes secondaires, on peut connaître la cause, c'est-à-dire un accident, un trauma, une tumeur, etc. Mais la grande majorité des glaucomes qu'on a, par exemple, ici, sont des glaucomes qu'on dit à angle ouvert, donc c'est près de 75% des cas.
Mm-hmm.
Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de symptômes pour le patient. Donc, on ne s'aperçoit pas qu'il y a des changements au niveau de notre vision, parce que ce n'est pas quelque chose qui attaque la vision centrale, mais bien la vision périphérique.
Mm-hmm.
On ne sent pas de douleur qui rentre en ligne de compte, et on ne sent pas de changement. Donc, tous ces facteurs-là, c'est des facteurs qui peuvent être identifiés par un spécialiste de la vision.
Est-ce que la plupart des gens que vous rencontrez du côté de l'hôpital juif, Marc, ont découvert qu'ils faisaient du glaucome un petit peu au détour d'un examen visuel?
Tout à fait vrai. C'est pour ça que généralement, on découvre cette maladie-là vers l'âge de 45 ans, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais eu d'examen des yeux, qui tout à coup, rendus à cet âge-là, s'aperçoivent que leurs bras sont un peu assez longs pour lire. Alors, ils disent, bon, il faut que j'aille chercher une paire de lunettes, on s'en va voir un optométriste. Et au bout de la ligne, c'est là qu'on nous dit, ah, ben vous faites peut-être de la pression, ou il y a peut-être des signes à l'intérieur de vos yeux qui vont nous porter à croire que vous faites du glaucome. Alors, à moins de connaître ces antécédents familiaux, il y a peu vraiment d'autres choses qu'il faut faire à part de se faire examiner les yeux de façon régulière.
Oui. Et j'imagine si, par exemple, on vit avec le diabète, là, on va être un petit peu plus prudent.
Tout à fait. D'ailleurs, la plupart des maladies vasculaires peuvent avoir une incidence sur notre glaucome.
Et l'hypertension artérielle?
Également.
Est-ce que les enfants peuvent vivre, développer un glaucome?
Oui, malgré que c'est plus rare, et on associe ça plutôt à une maladie congénitale ou un syndrome. Mais pensez par exemple à Ray Charles, le musicien,
ouais.
Qui était aveugle à l'âge de 4-5 ans à cause du glaucome.
Et là, je le disais en introduction, c'est une maladie chronique de l'œil qui mène ou qui peut mener à la cécité. J'imagine, et on sait que la maladie peut être facilement stabilisée par des traitements qui sont adéquats et de plus en plus adéquats. Si la maladie n'est pas diagnostiquée, c'est là que ça peut s'aggraver et mener à une perte de la vision.
Tout à fait. La cécité, c'est le glaucome, c'est une forme de cécité, c'est la deuxième cause au monde.
Okay.
Donc, ça va affecter non seulement notre qualité de vie, mais ça va affecter tout le reste, et notre santé, notre santé psychologique et tout le reste.
Donc, il n'y a pas de façon de prévenir le glaucome.
À vrai dire, on ne peut pas vraiment prévenir le glaucome, mais on peut prévenir les dommages causés par celui-ci par des examens réguliers de la vie. Alors donc, encore une fois, une détection précoce le plus rapidement possible, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Dans certains glaucomes, comme par exemple, où il y a déjà physiologiquement, là, l'œil est fait de façon à ce qu'on appelle les angles sont fermés à l'intérieur des yeux, un traitement, par exemple, de laser peut prévenir une attaque de glaucome aigu. Mais en général, là, on peut pas faire quelque chose et dire, ah ben là, si je mange ci ou je fais ça, ben j'aurai pas de glaucome. C'est pas quelque chose qu'on attrape.
Et c'est peut-être ça qui fait que c'est une maladie aussi inquiétante, au bout du compte.
C'est inquiétant parce que c'est insidieux. C'est pour ça qu'ils appellent ça le voleur silencieux de la vision.
Oui. Et les traitements qui sont présentement en place, je sais qu'il y a des gouttes, hein, souvent, qui sont le traitement le plus utilisé. Qu'est-ce qu'ils permettent, ces traitements-là?
Alors, ce qui se passe, c'est que, comme on dit, le glaucome n'est pas une maladie qui se guérit, mais ça peut se contrôler et même on peut ralentir considérablement l'avancée de cette maladie-là. Et les traitements qu'on utilise, c'est surtout, par exemple, les gouttes, mais aussi des traitements de laser et même de la chirurgie dans certains cas. Les gouttes sont utilisées plus souvent et s'avèrent vraiment efficaces, mais il faut quand même les utiliser.
Ouais.
Et par la nature même de la maladie, donc qui ne présente pas de symptômes, l'adhérence à l'utilisation des médicaments est peut-être le plus grand problème auquel on fait face quand il s'agit de glaucome. Pensez-y, on a une maladie qui ne nous présente aucun symptôme, et là, tout à coup, on est obligé de prendre des gouttes peut-être pour le reste de notre vie. Et ces gouttes-là, quelquefois, peuvent déranger notre style de vie, nos horaires, peut-être qu'ils chauffent, peut-être qu'ils nous donnent les yeux un peu rouges, peut-être inconfortables. Alors, quelquefois, les gens ont une tendance à oublier plus. Le fait est que, comme c'est une maladie chronique, plus on vieillit, bien, on peut commencer à avoir des problèmes, par exemple, de mémoire ou encore de motricité fine. Alors, toutes ces choses-là, il y a beaucoup de barrières à l'utilisation des médicaments. Alors, on a beau avoir les meilleurs chirurgiens ou les meilleurs hôpitaux du monde ou les meilleurs pharmaciens ou les meilleurs médecins ou quoi que ce soit, si le patient ne met pas ses gouttes, ça ne fonctionnera pas. C'est le patient qui a vraiment le contrôle sur sa maladie. Alors, ce qu'on tend à faire, c'est qu'on essaie de faire connaître la maladie et de faire comprendre la maladie à nos patients pour qu'ils puissent devenir non pas des patients passifs, mais bien des acteurs actifs ou des gens qui sont part du traitement.
Et quels sont les trucs concrets que vous pouvez leur donner, vous, Marc Renaud, vous me le disiez pas plus tard qu'hier, vous rencontrez à peu près 50 patients par jour, donc vous êtes étroitement lié à eux. Maladie chronique signifie un contact étroit avec ces gens-là. Vous leur donnez des astuces pour qu'ils arrivent à être un petit peu plus actifs dans la stabilisation de leur maladie?
Il y a toutes sortes de trucs, mais avant tout, il y a aussi des questions d'hygiène. Alors, il peut y arriver, par exemple, que les gens, sans s'en rendre compte ou simplement parce qu'ils sont pas au courant, vont peut-être négliger une bonne hygiène au niveau des mains. Alors, si on a les mains qui sont pas propres ou qu'on laisse traîner les bouchons, par exemple, de nos médicaments un peu partout, c'est sûr qu'il va y avoir une contamination qui va se faire peut-être plus rapidement, puis le médicament va être moins efficace. Dans les gens, par exemple, qui ont des problèmes de mémoire, on peut leur suggérer d'utiliser, d'avoir le body system, d'avoir des amis pour leur rappeler. On peut avoir aussi toutes sortes de gadgets. Il y a une de nos patientes, d'ailleurs, qui, elle, avait acheté un espèce de petit horodateur, ce qu'on appelle vulgairement un timer, là. Et elle avait tout simplement réglé ce timer-là sur une lumière, et chaque fois que la lumière s'allumait, elle savait qu'elle devait prendre ses médicaments. Alors, il y a toutes sortes de façons de le faire. Si quelqu'un a des problèmes de motricité fine, à ce moment-là, ces médicaments-là, les gouttes, c'est des petits, c'est tout petit, hein? Alors, à ce moment-là, on va leur suggérer d'enrouler un élastique autour de la bouteille. Ça va leur donner une meilleure adhésion à la bouteille. Alors,
il y a vraiment plein de stratégies
plein,
que
plein,
l'on
plein.
Peut mettre en place.
Tout à fait, tout à fait.
Et quelle est l'action de ces gouttes-là, Marc?
C'est à la base pour contrôler la production ou encore le débit de ce qu'on appelle l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse, c'est un liquide qui est produit par l'œil, qui est bon. Ce liquide-là est fait pour nourrir l'œil, la partie avant de l'œil, c'est-à-dire l'intérieur de la cornée. Bien, la cornée. Ensuite, la lentille à l'intérieur de votre œil et bien sûr l'iris. Alors, ce liquide-là qui est sous pression doit sortir quelque part. Il sort à une espèce de d'angle entre la cornée et l'iris. Et comme tout problème de plomberie, c'est tout à coup, pour une raison ou pour une autre, ce liquide-là ne peut pas sortir correctement, soit parce que les angles sont petits ou fermés ou qu'il y a un problème au niveau de la structure même de l'angle, même s'il est grand ouvert, à ce moment-là, il y a une pression qui vient s'exercer à l'intérieur de l'œil. Cette pression-là, même si elle est relativement élevée, le patient ne s'en rendra pas compte. Mm-hmm. Mais éventuellement, ça va aller affecter ce qu'on appelle le nerf optique, qui est la connexion, le câble électrique entre l'œil et le cerveau. Et tranquillement, pas vite, les cellules de ce nerf-là vont commencer à se détériorer et mourir. Et ce sont des cellules qui ne se régénèrent pas.
C'est
donc, on commence à perdre la vue sans s'en rendre compte, tranquillement, pas vite.
Et quand on perd la vue liée à un glaucome, au glaucome, vous disiez tout à l'heure que c'est du côté de la vue périphérique, donc c'est vraiment dans nos angles que l'on commence à moins bien voir.
C'est sur les côtés, effectivement,
oui. Maintenant, ce à quoi je m'intéresse aussi beaucoup, Marc-Renaud, c'est l'impact sur le quotidien. On parlait tout à l'heure de ces gouttes-là que l'on doit, on doit les utiliser au quotidien pour stabiliser la maladie. Est-ce que ça peut avoir un impact sur certains loisirs, certains sports que l'on voudrait pratiquer? Je pense à la natation, par exemple, plongée sous-marine.
Bon, c'est une bonne question. On peut, par exemple, éviter de faire du yoga la tête en bas pendant des heures de temps. Dans certains cas, certains glaucomes, peut-être au moins consulter son médecin avant de commencer à jouer de la trompette ou des instruments qui demandent beaucoup de pression au niveau de la tête, comme aussi faire des efforts, mais vraiment là, très, très importants, comme des gros poids et tout le reste, ou de la plongée sous-marine intense. On ne parle pas de faire du snorkel, là, mais ce sont peut-être des activités qui pourraient être limitées. Mais pour ce qui est du reste, que ce soit voyager, prendre l'avion, quoi que ce soit, sauf si on vient à peine là, d'avoir une chirurgie pour le glaucome, il n'y a pas vraiment d'activité que vous ne devez pas faire si vous faites du glaucome.
Et bien sûr, il y a un aspect gestion du stress. Est-ce que les patients que vous rencontrez vont démontrer plus d'anxiété liée à leur maladie?
Tout à fait. Et ça, c'est toujours... Et pourtant, c'est un peu bizarre parce qu'autant les gens vont être extrêmement stressés par ça, surtout quelqu'un à qui on vient d'annoncer qu'ils font du glaucome, parce qu'automatiquement, on associe glaucome à cécité. Si quelqu'un va tout de suite faire un Google, ils vont dire « Ah, mon Dieu, c'est la deuxième cause de cécité dans le monde après la cataracte et c'est la première cause de perte de vision irréversible. » Alors, c'est sûr que c'est dramatique, mais c'est une maladie, encore une fois, et je répète, et c'est important que les gens sachent, ça se contrôle. Et ça se contrôle par le patient si le patient doit prendre les gouttes. Alors, de ce côté-là, il y a vraiment un espoir, mais il faut être conscient de ça. Mais en même temps, il faut participer à être capable de contrôler cette maladie-là.
Et bien sûr, le contrôle, ça se passe aussi par l'information. En connaître, ça nous permet de maîtriser. Et vous êtes là aussi pour ça, Marc-Renaud, pour nous parler de ces sessions d'information gratuites, dont l'une qui aura lieu bientôt le 9 avril du côté de Québec.
C'est bien ça. Alors, si je commence par l'activité de Québec... Je vais donner une conférence qui est une conférence gratuite lors d'une activité qui s'appelle Technovision, qui est parrainée par l'Institut national canadien pour les aveugles, la INCA. Et ça, c'est le jeudi 9 avril. Je pense que ça va être à 13h à l'Hôtel Plaza à Québec sur le boulevard Laurier. Alors, il va y avoir quand même beaucoup d'autres activités autour de Technovision. Alors, c'est sûr que ça me ferait plaisir de rencontrer les gens. On va parler un peu de glaucome en général pour éclairer, mais aussi parler de l'utilisation des gouttes et des médicaments pour rendre ça aussi un peu plus facile. Par contre, à l'année longue, et on est peut-être un des rares centres, même au Canada, qui fait ça de façon aussi régulière à tous les mois et depuis 2006, ça veut dire qu'on a dépassé la 100e conférence, à l'Hôpital Général Juif, on donne des sessions d'information gratuites qui s'adressent à toute la population et on s'adresse sur les questions de barrière à l'adhérence, la manipulation, les médicaments, les problèmes de gestion, de mémoire. On a une infirmière sur place, si vous avez des difficultés de type aux gouttes, qui va vous coacher sur place. Et à la fin, j'ai toujours un médecin qui vient répondre aux questions des gens. Et par exemple, la prochaine session à l'Hôpital Juif, ça va être le lundi 27 avril à 16h, de 16h à 18h à la salle A102. Si vous me permettez, je vais laisser notre numéro de téléphone s'il y a des gens qui veulent s'inscrire ou se renseigner au 514-340-8222, poste 4954, ou encore au hgj.ca/glaucome.
Ça sera sur notre site aussi, Marc Renault.
C'est très aimable. Mais il y a aussi une autre activité qui vient en parallèle, et ça va être cette semaine, justement, à la Plaza Alexis-Néon. Et ça, c'est avec nos partenaires de l'INCA et de la Fondation du glaucome du Québec. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une journée de sensibilisation et de dépistage le jeudi 12 mars, de 10h à peu près 17h, toujours dans le cadre de la Semaine mondiale du glaucome. Et on va rencontrer les gens, on va leur parler de glaucome, on va faire des tests où les gens qui n'ont jamais eu d'examen pour les yeux, on va essayer de trouver, on va essayer des coachés là-dedans. Puis, ce qui est intéressant dans ce genre d'activité-là, malheureusement, qu'on a fait une fois par année, pour toutes sortes de raisons, à chaque année, on s'est aperçu qu'on va chercher entre 10 et 11 % des gens qu'on rencontre et qui n'ont jamais eu d'examen des yeux au préalable. On s'aperçoit qu'on détecte des problèmes, dont des problèmes de glaucome. Donc, c'est très important. Ça met encore plus en lumière l'importance de faire vérifier sa vision.
C'est en français et en anglais?
Alors, pour ce qui est de la journée à la Plaza Alexis-Néon, c'est en français et en anglais. Pour ce qui est de l'activité à Québec, c'est en français. Et pour ce qui est des activités de session d'information du glaucome, c'est en alternance en français et en anglais à l'Hôpital Juif, mais la session du 27 avril va être en français.
Et quel est le profil des gens qui viennent à votre rencontre, Marc?
À la base, ce sont des gens qui sont référés soit par leur pharmacien ou encore des médecins ou tout simplement des techniciens un peu partout, des gens de CLSC et qui sont des patients de glaucome, des gens qui expriment des difficultés avec leurs médicaments, leurs gouttes, qui ont des inquiétudes. Mais c'est aussi des membres de leur famille. C'est important que les gens, que la famille soit aussi au courant de ça. Un, parce que peut-être, on va espérer que non, mais peut-être qu'ils ont une possibilité de développer un glaucome, mais également pour soutenir la personne qui a cette maladie-là. Mais n'importe qui peut venir. J'ai déjà eu une jeune fille qui était une étudiante et qui est venue faire un travail sur le glaucome et venue à une conférence, et je pense qu'elle s'est retrouvée dans les finalistes là, à une exposition, un concours d'exposition scientifique pour le travail qu'elle a fait sur le glaucome. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde qui est intéressé aux maladies oculaires ou des gens qui utilisent des gouttes pour leurs yeux.
Et c'est une bonne chose de sensibiliser les proches parce qu'ils seront peut-être un petit outil de rappel mémoire pour ces gouttes qui semblent être bien précieuses, Marc Renault.
Tout à fait important, vous avez raison.
Vous êtes chargé de projet et conférencier pour le Centre d'information sur le glaucome de l'Hôpital Général Juif. On glissera tous les liens mentionnés au cours de notre discussion www.jgh.ca, Centre d'information sur le glaucome. Très bonne semaine mondiale du glaucome, Marc Renault. Toujours un plaisir de vous parler.
Merci de m'avoir donné la chance de vous parler de glaucome. Et c'est en parlant et en sensibilisant les gens que vous allez contribuer à sauver la vue de ces personnes-là. Alors, merci encore au Canal M et à vous, Mme Paquette. Au plaisir de se reparler.
Merci, au revoir.
Au revoir.